Der Mann dann wir nicht antasten lassen. Je ne suis pas allé en Allemagne durant l'année que j'ai passée à grimper en Europe, mais j'ai croisé nombre d'alpinistes allemands, notamment en Suisse. Certains étaient amicaux, beaucoup ne l'étaient pas. Lors de ma rencontre avec Jean-Claude et le Diacre, alors que nous contemplions la face nord de l'Eiger et admettions qu'elle était inaccessible avec les techniques et la technologie de l'époque, une bande de 5 Allemands se trouvait à proximité, très sérieux, très acharnés et fort peu aimables, et semblant déterminés à escalader die Eigerwand, le mur de la face nord. Inutile de préciser qu'ils n'ont pas réussi. Ils ont à peine dépassé la rimaille et franchi une trentaine de mètres de pente, avant de renoncer à leur audacieuse quête. Pour notre voyage en Allemagne, je repasse par la France avec le Diacre, qui doit y régler une affaire financière, puis nous traversons la Suisse, via Zurich, jusqu'à la frontière où nous changeons de train, puisqu'à l'époque les rails n'avaient pas le même écartement en Allemagne et dans les pays voisins. Il s'agissait bien sûr d'une mesure militaire défensive de leur part, même si l'ancien empire du Kaiser avait été très affaibli par le traité de Versailles. Par l'en bas, bien que nous disposions d'un compartiment pour nous tout seuls, grâce à la note de frais de Lady Bromley, le Diacre m'explique que le gouvernement de gauche de l'actuelle République de Weimar ressemble à un club de débat plutôt inefficace. Puis, au matin, direction Munich. C'est une journée pluvieuse. Des nuages bas et gris filent vers l'ouest, dans la direction opposée à celle du train, et mes premières impressions de l'Allemagne en novembre 1924 sont assez confuses. Les villages sont propres, des avant-toits, quelques constructions modernes au milieu de maisons et de bâtiments publics paraissant dater du Moyen-Âge, des pavés mouillés de pluie reflètent la faible luminosité. Dans les rues, certains hommes sont vêtus comme des paysans ou des ouvriers, mais j'en aperçois aussi d'autres en costume croisé gris, une serviette de cuir à la main. Tout ce que je vois par les vitres du train, paysans, ouvriers ou hommes d'affaires, semble cependant abattu. Comme si la gravité était plus forte ici en Allemagne qu'en Angleterre, en France ou en Suisse. Même les jeunes gens en costume qui marchent vite sous leur parapluie ont l'air légèrement courbés, légèrement voûtés, la tête basse, les yeux rivés au sol, comme s'ils portaient un fardeau invisible. Puis nous traversons une région industrielle où s'alignent de longs bâtiments sales en briques ou en parpaings au milieu de grands terrils. Quelques tours et cheminées d'usines crachent de grandes langues de feu qui semblent braquer une lumière orange sur les nuages qui passent. Je ne vois aucun être humain dans ce paysage, tandis que je regarde défiler des kilomètres de ces affreuses structures industrielles avec leurs montagnes de scories, de sable et de déchets. En janvier l'année dernière, dit le Diacre, le gouvernement allemand a pris du retard dans le paiement des réparations imposées par le traité. La monnaie s'était effondrée, passant de 75 marques pour un dollar en 1921 à 7000 marques au début de 1923. Les Allemands ont demandé aux Alliés un moratoire sur le paiement des réparations, au moins jusqu'à ce que le mark regagne un peu de valeur. La réponse des Alliés est venue des Français. Poincaré, ancien président de la République et actuel président du Conseil, a envoyé des troupes françaises occuper la Ruhr et d'autres sites industriels en Allemagne. Quand ces troupes sont arrivées, en janvier 1923, le mark a chuté encore davantage, tombant à 18 000 pour un dollar, puis à 160 000 et jusqu'à 1 million pour un dollar au 1er août. J'essaie de comprendre, bien que l'économie m'ait toujours ennuyé, et si j'avais lu que des troupes françaises étaient entrées en Allemagne pour occuper une région industrielle, je n'avais prêté aucune attention à l'effet de cette occupation sur l'économie allemande d'après-guerre. En novembre de l'année dernière, poursuit le Diacre, se penchant jusqu'à ce que sa voix ne soit guère plus qu'un murmure, il fallait 4 milliards de marks allemands pour acheter un dollar. Les troupes françaises supervisant toute la production industrielle, le trafic fluvial et les exportations d'acier, l'Allemagne était de fait coupée en deux. Si bien que les ouvriers allemands, qui travaillaient le plus souvent sous la garde armée des soldats français dans des usines semblables à celles que nous venons de dépasser, ont lancé une grève générale. Dans la plupart de ces usines, comme dans la Ruhr, La production s'est arrêtée du fait de la résistance passive, des sabotages et même de la guérilla menée par les ouvriers allemands. Les Français ont eu beau arrêter, expulser, voire exécuter les leaders présumés de ces actions, rien n'y a fait. Mon Dieu, dis-je. Le diacre désigne d'un mouvement de tête les hommes et les femmes dans la rue. L'année dernière, ces gens savaient que même avec des millions de marques sur leur compte en banque, ils n'auraient pas eu assez pour s'acheter une livre de farine ou quelques carottes rabougries. Alors ne parlons même pas d'un peu de sucre ou de viande. Il prend une profonde inspiration et, derrière la vitre striée de pluie, me montre les faubourgs de Munich dans lesquels nous entrons. Il y a ici beaucoup de colère et de frustration, Jake. Soyez prudent quand nous rencontrerons Siegel. Les Américains, même s'ils nous ont aidés à gagner la guerre, sont une curiosité ici. Mais beaucoup d'Allemands détestent viscéralement les Britanniques et les Français. Et Jean-Claude n'aurait peut-être pas été en sécurité à Munich. Je serai prudent, dis-je, sans savoir ce que cela signifie ou exige d'être prudent dans ce pays étrange, triste et plein de colère. Le diacre ne nous a pas réservé d'hôtel. Nous avons des billets dans un train couchette repartant pour Zurich à 22 heures. Je m'en étonne, puisqu'il aurait été facile d'ajouter le prix de chambre, même luxueuse, à nos dépenses réglées par Lady Bromley. Contrairement à Jean-Claude, le diacre ne déteste pas l'Allemagne ni les Allemands, et je sais qu'il est souvent venu dans ce pays depuis la guerre. Si bien que ce n'est ni l'inquiétude ni la peur qui nous pousse à repartir dès ce soir, sans profiter d'une bonne nuit de sommeil. Je sens que ce simple entretien avec l'alpiniste Bruno Siegel tracasse le diacre, même si je ne m'explique pas pourquoi. Dans un bref télégramme, Siegel a accepté de nous rencontrer à Munich, rapidement, car c'est un homme très occupé, son expression, dans une brasserie appelée Burgerbraukeller, à l'extrémité sud-est de la ville. Le rendez-vous étant fixé à 19h, le diacre et moi laissons notre bagage à la gare, passons nous rafraîchir dans les toilettes du salon des premières classes, puis déambulons sous nos parapluies pendant une heure ou deux dans les rues du centre-ville, curieusement dépourvues de commerce, avant de prendre un taxi. Munich me paraît vieux, mais ni pittoresque ni séduisant. La pluie s'abat toujours sur les toits d'ardoise, et les rues sont aussi sombres et froides que celles de Boston par une soirée de novembre. Pendant toute ma vie consciente, je me suis imaginé que ma première vraie rencontre avec l'Allemagne se passerait unter den Linden, où je me promènerais dans la riche lumière estivale, croisant des Allemands aimables et élégants qui me salueraient d'un « Guten Abend ». Les essuie-glaces du taxi fouettent en vain la pluie qui ruisselle sur le pare-brise. Nous traversons un fleuve sur un large pont désert, et quelques minutes plus tard, le chauffeur bourru nous annonce dans son mauvais anglais que nous sommes « here », à la Burgerbraukeller, rue Rosenheimer, dans le quartier des Heidhausen, et nous réclame ce qui doit être 3 fois le prix normal de la course. Le diacre paie sans protester, comptant les grosses coupures de sa liasse comme s'il s'agissait de faux billets. La grande arche de pierre marquant l'entrée de la brasserie porte les mots « Burgerbraukeller », inscrit au milieu d'une grossière guirlande circulaire au-dessus de la voûte. De l'eau dégouline du toit d'ardoise pointue et de plusieurs gouttières débordantes. En passant sous l'arche pour atteindre la porte d'entrée, nous avons plus l'impression de pénétrer dans une gare que dans un bar ou un restaurant, mais au moins nous y sommes au sec. Dès que nous posons le pied à l'intérieur de la Burgerbraukeller, le diacre et moi nous immobilisons stupéfaits. 2 ou 3 000 personnes sont rassemblées là, des hommes surtout, sifflant de la bière dans d'énormes chopes de pierre, à des tables de bois si rudimentaires qu'elles paraissent avoir été taillées dans la forêt l'après-midi même. La salle est gigantesque et tellement sonore qu'elle m'évoque un vaste auditorium. Le bruit des conversations et de l'accordéon, à moins qu'il ne s'agisse de gens hurlant sous la torture, me frappe comme un coup de poing. Le second impact vient de l'odeur. 3 000 Allemands pas lavés ou à peine, essentiellement des ouvriers, à en juger par leurs vêtements, et à cette vague de sueur qui déferle sur nous, se mêle une puanteur de bière si forte que j'ai l'impression d'être littéralement tombé dans un tonneau. Herr Deacon, venez ici. Ici. C'est un ordre, pas une invite, crié par un homme debout devant une table encombrée, à peu près au milieu de la salle bondée. L'homme, que je suppose être Bruno Siegel, nous regarde approcher d'un regard bleu, froid et fixe. Siegel a la réputation d'être un bon grimpeur, particulièrement doué, d'après les journaux spécialisés, pour trouver des voies sur les faces vierges dans les Alpes. Mais mis à part ses avant-bras massifs révélés par ses manches retroussées, il n'a pas le physique d'un alpiniste, trop ostensiblement musclé, trop charpenté, trop râblé. Il a les cheveux blonds coupés en brosse sur le crâne et rasés sur les côtés. Plusieurs hommes assis à sa table, parmi les plus costauds, arborent la même coupe. Elle ne sied pas à Siegel à cause de ses oreilles décollées semblant jaillir du bloc de granit qu'est son visage. « Herr Deacon !» répète-t-il quand nous approchons. Sa voix grave tranche dans le brouhaha de la salle comme un couteau fend la chair molle. « Willkommen in München, meine Kletterkollegen. J'ai lu beaucoup de choses sur vos brillantes premières ascensions dans l'Alpine Journal et ailleurs. » Malgré l'accent allemand attendu, Bruno Siegel s'exprime dans un anglais fluide. Je savais que le diacre parlait couramment l'allemand, en plus du français, de l'italien et de quelques autres langues, mais je suis surpris de la vitesse et de l'assurance avec lesquelles il répond « Vielen Dank, Herr Siegel. Ich habe ebenfalls von Ihren Erfolgen und Leistungen gelesen. » Pendant le voyage de retour cette nuit-là, le diacre me traduira de mémoire tout ce que Siegel et les autres Allemands auront dit, ainsi que ses propres réponses en allemand. Là, je devine qu'il retourne simplement son compliment à Siegel. « Herr Jakob Perry, » dit l'Allemand, me broyant la main dans une poigne de granit à travers laquelle je sens sa peau calleuse. « Des Perry de Boston. Bienvenue à München. » « Des Perry de Boston ?» Que c'est ce grimpeur allemand de ma famille? Et sa prononciation à l'allemande donne à mon prénom une consonance juive. Siegel porte le Lederhose, la culotte de peau traditionnelle, au-dessus de sa chemise brune d'allure militaire. L'accoutrement devrait paraître ridicule au milieu des tenues d'ouvrier dans cette gigantesque brasserie, mais ses cuisses massives, nues et bronzées, et ses grandes mains qu'on dirait sculptées par Rodin, lui donnent plutôt une allure puissante. Presque démiurgique. Il nous montre le banc face à lui, plusieurs hommes se poussent pour nous faire de la place, sans pour autant cesser de boire, et le diacre et moi nous asseyons, prêts pour l'entretien. Siegel interpelle un serveur et commande des bières. Je suis déçu. J'espérais être servi par une Fräulein en blouse paysanne à profond décolleté, mais il n'y a que des serveurs en culotte de peau portant des plateaux chargés de chopes géantes. En plus, j'ai faim, et le déjeuner léger que nous avons pris dans le train remonte à de longues heures. Or, notre table et toutes les autres sont vides, à l'exception des chopes et des avant-bras poilus des Allemands. À l'évidence, l'heure du repas est déjà passée, ou encore à venir, à moins qu'on ne serve jamais à manger ici. Nos bières arrivent presque tout de suite. J'avoue que c'est la première fois que je bois une bonne et forte bière allemande dans une chope de grès glacé. Après avoir soulevé la chose trois fois, je commence à comprendre pourquoi tous les hommes de ce côté de notre table ont de six énormes biceps. « Messieurs, » dit Siegel, « permettez-moi de vous présenter certains de mes amis réunis ici. Hélas, aucun d'eux n'est suffisamment à l'aise dans votre langue pour parler anglais ce soir. »« Mais ils le comprennent, » demande le diacre. « Pas vraiment, » répond Siegel avec un mince sourire. Tout de suite, à ma gauche, se trouve Herr Ulrich Graf. Herr Graf est un homme grand et mince, portant une épaisse et ridicule moustache noire. Nous nous saluons d'un signe de tête. Je devine qu'il n'y aura plus de poignée de main. Ulrich a été son garde du corps personnel, et lui a servi de bouclier en novembre dernier, ce qui lui a valu plusieurs graves blessures par balle. Mais comme vous pouvez le voir, Herr Graf a bien récupéré. J'entends l'insistance étrange et presque révérencieuse sur le « son » et le « lui », mais je n'ai aucune idée de la personne dont il parle. Siegel ne semble pas disposé à m'éclairer, et plutôt que d'interrompre les présentations en cours, je me tourne vers le diacre. Mais celui-ci regarde les hommes de l'autre côté de la table et ignore mon coup d'œil interrogateur. « À la gauche de Herr Graf se trouve Herr Rudolf Hess, » poursuit Siegel. « Herr Hess commandait un bataillon de SA lors de l'opération de novembre dernier. » Hess est un drôle de type aux oreilles énormes et aux joues couvertes d'une ombre de barbe. Le genre d'homme qui doit probablement se raser deux ou trois fois par jour s'il a un métier sérieux ou des contacts avec le public. Il a des yeux tristes sous des sourcils épais et mobiles comme ceux d'un personnage de bande dessinée. Il les garde haussés dans une attitude de surprise tout le temps que je l'observe, puis les fronce d'un air coléreux. Pour être honnête, Hess me rappelle un fou que j'ai vu un jour dans un jardin public de Boston quand j'étais enfant. Un fou échappé d'un asile voisin, qui a été pacifiquement capturé par trois surveillants en blouse blanche à 10 mètres de moi. Ce dément avançait dans ma direction en longeant le lac, comme s'il poursuivait une mission qu'il était seul à pouvoir mener à bien, et en regardant S, je ressens la même frousse qu'en voyant cet homme venir vers moi en passant devant le pavillon des bateaux cygnes. Je ne sais toujours pas ce qu'était l'opération de novembre dernier, mais je subodore quelque action martiale. Cela explique peut-être pourquoi tant d'hommes autour de cette table portent des chemises brunes quasi militaires avec des épaulettes. Je fouille ma mémoire pour retrouver ce qui a bien pu se produire en Allemagne en novembre 1923, mais j'ai passé ce mois à grimper dans la région du Mont-Blanc et je ne me rappelle pas avoir entendu des nouvelles à la radio ou lu des articles de journal, essentiellement en français et allemand, les quelques fois où nous sommes descendus dans des hôtels suisses. J'ai vécu cette année d'alpinisme presque complètement hors du temps, jusqu'au jour où nous avons appris la disparition de Mallory et d'Irvine dans l'Everest. Et l'opération, qui a eu lieu ici à Munich en novembre dernier, n'a pas retenu mon attention. Sûrement une nouvelle explosion politique de l'un ou l'autre bord, comme on a produit l'Allemagne depuis l'avènement de la faible République de Weimar après l'abdication du Kaiser. Quoi qu'il en soit, c'est sans rapport avec notre long voyage jusqu'ici pour nous entretenir avec Bruno Siegel. Ce qui n'est pas sans rapport, ce sont le nom des 6 alpinistes que Siegel est maintenant en train de nous présenter, les 6 hommes assis sur le banc de notre côté de la table.
D'abord, laissez-moi vous présenter le plus éminent parmi nos collègues alpinistes, dit Siegel, paume ouverte en direction d'un barbu au visage fin et bronzé et à l'air sérieux, assis juste à ma droite. Herr Karl Bachner.
C'est un véritable honneur de vous rencontrer, Herr Bachner, dit le diacre avant de le répéter en allemand. Bachner hoche légèrement la tête.
Herr Bachner, poursuit Siegel, a été le mentor de nombre des meilleurs grimpeurs bavarois, c'est-à-dire, bien sûr, des meilleurs grimpeurs du monde, à l'Akademischer Alpenverein München, le club d'alpinisme de l'Université de Munich.
Combien de fois pendant mes années à Harvard n'ai-je pas souhaité que ma faculté ait un club d'alpinisme officiel comme celui de Munich? Même si quelques professeurs pratiquaient et nous ont aidés à organiser nos expéditions en Alaska et dans les Rocheuses, il faudrait attendre quelques années avant la création du Harvard Mountain Club.
Herr Bachner est aussi une des figures de proue du nouveau Deutscher und Österreichischer Alpenverein,
ajoute Siegel. Ça, c'est de l'allemand que je suis capable de comprendre. Je sais, pour l'avoir lu dans des journaux spécialisés, que Karl Bachner a été à l'initiative de la fusion des clubs d'alpinisme allemand et autrichien. Siegel désigne les 2 jeunes gens à côté de Bachner.
Vous avez entendu parler, je présume, des récents exploits en escalade glaciaire d'Arthur Wollenbrecht.
L'homme le plus proche de moi nous adresse un signe de tête.
Et de son partenaire Eugen Löwenherz.
Ces jeunes gens se sont rendus célèbres pour avoir conçu des piolets très courts, des marteaux à glace plutôt, qu'ils utilisent avec des pitons et des broches. Cette ferraille bavaroise, tant moquée par les Britanniques comme le diacre, leur permettait pourtant de gravir rapidement des murs de glace qui résistaient à notre technique traditionnelle consistant à tailler des marches.
Arthur et Eugen ont gravi la face nord de la dent d'Ehrens par la voie directe en 16 heures la semaine dernière,
ajoute Siegel. J'émets un sifflement étonné. 16 heures pour une ascension directe de cette face nord qui compte parmi les plus difficiles d'Europe, Si c'est vrai, et les Allemands ne semblent jamais mentir sur le sujet, alors les deux hommes qui boivent de la bière à ma droite ont ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de l'alpinisme. « Avez-vous l'un de vos nouveaux piolets ici, messieurs ?» demande le diacre dans son allemand rapide, qu'il me traduira plus tard. Arthur Wollenbrecht passe la main sous la table et en sort non pas un, mais deux piolets, aux manches trois fois plus courts que celui de mon piolet de bois et à la lame plus pointue et plus incurvée. Il pose les deux instruments révolutionnaires devant lui, mais ne nous les tend pas pour que nous puissions les examiner de plus près. Peu importe. Il me suffit de regarder ces marteaux à glace, faute de meilleurs termes, pour imaginer les deux hommes les planter dans la paroi gelée de la face nord de la dent des Rennes et enfoncer de longs pitons ou ces nouvelles broches à glace pour assurer leur sécurité jusqu'au sommet. Je suis sûr qu'ils ont aussi utilisé des crampons 10 pointes, inventés en 1908 par l'anglais Oscar Eckenstein, quoique souvent dédaignés par les alpinistes britanniques, mais largement adopté par cette nouvelle génération de grimpeurs bavarois. C'est plus qu'ingénieux, c'est brillant. Seulement, je ne suis pas sûr que ce soit loyal, si tant est que la notion ait un sens dans ce cas. Siegel présente les trois derniers grimpeurs. Gunther Erik Riegel, qui, il y a 2 ans, a adapté le piton allemand pour une utilisation sur la glace. Un très jeune Karl Schneider, sur qui j'ai lu des choses extraordinaires, et Joseph Wien, un alpiniste plus âgé, au crâne rasé, dont le but avoué, d'après les journaux spécialisés, est de diriger des expéditions conjointes germano-soviétiques au pic Lénine et d'autres ascensions impossibles dans le Pamir et le Caucase. Le diacre exprime l'honneur que cela représente pour nous deux de rencontrer ces grands alpinistes bavarois. Les 6 hommes ainsi complimentés, 7 avec Bruno Siegel, ne clignent même pas des yeux en réponse. Après avoir pris une autre longue gorgée de bière de sa lourde chope, le diacre demande à Siegel « Pouvons-nous maintenant entamer notre discussion ?»«
Ce ne sera pas une discussion, comme vous dites, »
rétorque Siegel, abandonnant soudain toute courtoisie bavaroise.
« Ce sera un interrogatoire, comme si j'étais dans un tribunal anglais. »
J'en reste bouche bée. Mais le diacre sourit et répond « Pas du tout. Si nous étions dans un tribunal anglais, je porterais une drôle de perruque blanche et vous seriez sur le banc. » Siegel fronce les sourcils.
« Je ne suis qu'un témoin, Herr Dicken. C'est l'inculpé, l'accusé, en général, qui s'assoit sur le banc dans les tribunaux anglais, non ? Les témoins s'assoient où ? Sur une chaise près du juge, y'a ?
Y'a, acquiesce le diacre, souriant toujours. Autant pour moi. Préférez-vous que nous parlions en allemand afin que tous vos amis puissent comprendre ?
Je traduirai plus tard pour Jake.
Nein,
dit Bruno Siegel.
Nous parlerons anglais. Votre accent berlinois écorche mes oreilles bavaroises.
Désolé. Mais nous sommes d'accord sur le fait que vous êtes le seul témoin à avoir vu Lord Percival Bromley et son compagnon, Kurt Meyer, être emportés par une avalanche, n'est-ce pas?
Au nom de quelle autorité m'interrogez-vous? Où vous entretenez-vous avec moi, Herr Dicken ?
Aucune autorité, répond calmement le diacre. Jake Perry et moi rendons un simple service à Lady Bromley, qui, vous le comprendrez aisément, cherche à avoir plus de détails sur la mort brutale de son fils dans la montagne.
Un service à Lady Bromley ?
Répète Siegel, dont le fort accent allemand ne masque pas le ton sarcastique.
Je suppose qu'il se monnaie, ce service.
Le diacre se contente de sourire et d'attendre. Enfin, Siegel flanque sa chope vide sur la table, fait signe au serveur attentif de lui en apporter une autre, et grommelle
« Tout ce que j'ai vu de l'accident, je l'ai raconté aux journaux allemands et dans une lettre au journal de votre Royal Geographical Alpine Club. »
C'était un récit très court, fait remarquer le diacre.
C'était une avalanche très brève,
réplique Siegel.
Vous avez participé aux 2 expéditions précédentes de Mallory dans l'Everest. Je suppose que vous avez vu des avalanches là-bas, ou du moins dans les Alpes.
Le diacre hoche 2 fois la tête. Vous savez donc comment ça se passe. Une seconde là où les personnes sont là, la seconde d'après, elles ont disparu.
C'est vrai, concède le diacre. Mais j'ai du mal à comprendre ce que Lord Percival et cet homme du nom de Meyer faisaient sur la montagne. Pourquoi étaient-ils là-bas? Et vous, pourquoi y étiez-vous avec vos 6 amis? D'après ce que vous avez dit dans plusieurs journaux, vous et plusieurs autres explorateurs allemands êtes arrivés au Tibet par la Chine, avec une autorisation chinoise et pas tibétaine, même si les Dzongpons tibétains l'ont accepté comme si c'était un laissez-passer officiel. Vous avez raconté à la Frankfurter Zeitung que vous aviez changé d'itinéraire en apprenant qu'un Autrichien et un Anglais avaient loué des yaks et acheté du matériel d'escalade dans la ville tibétaine de Tingritzong, et que vos amis et vous étiez partis vers le sud pour en savoir plus, par pure curiosité, rien de plus.
Tout ce que j'ai raconté aux journaux est exact,
dit Siegel d'un ton dédaigneux.
Votre camarade et vous avez fait tout le voyage jusqu'à Munich pour m'entendre confirmer ce que j'ai déjà expliqué.
Il reste d'importantes zones d'ombre, dit le diacre. Lady Bromley, la mère du jeune Percival, apprécierait beaucoup que vous nous aidiez à découvrir les faits manquants. C'est tout ce qu'elle veut.
Et vous avez fait tous ces kilomètres pour aider une vieille dame à... Comment dit-on ? À glaner quelques renseignements sur la mort de son fils,
lance Siegel avec une expression très proche du mépris. J'admire le diacre qui parvient à garder son calme. Ce Kurt Meyer venait-il de votre groupe d'exploration ? Demande le diacre.
Nein. Nous ne savions rien de lui avant que les Tibétains de Tingritzong ne prononcent son nom. Et nous disent qu'il chevauchait vers Rongbach, au sud-est, avec un Lord Percival Bromley venu d'Angleterre.
Meyer n'était donc pas un alpiniste.
Siegel boit une longue gorgée de bière, rote et hausse les épaules.
Aucun de nous n'a jamais entendu parler de Kurt Meyer. À nous tous ici présents, nous connaissons presque tous les vrais alpinistes allemands et autrichiens. Tiens, meine Freunde!
Il adresse sa question à ses camarades, qui hochent la tête. Plusieurs acquiescent d'un « ya », bien que Siegel nous ait affirmé qu'il ne comprenait pas l'anglais. Le diacre soupire.
Plutôt que de répondre à mes questions qui vous font vous sentir comme au tribunal, Herr Siegel, pourquoi ne pas nous expliquer les raisons de votre présence aux abords de l'Everest et nous raconter ce que vous avez vu concernant Lord Percival Bromley et Kurt Meyer? Vous savez peut-être même pourquoi leurs poneys ont été abattus.
Nous avons vu les poneys morts à notre arrivée, dit Siegel. La zone du camp 1 est une moraine très accidentée, comme vous le savez, Herr Deacon. Les poneys avaient peut-être les jambes cassées. À moins que Herr Bromley ou Herr Meyer soient devenus fous et les aient abattus. Qui sait?
L'alpiniste allemand hausse les épaules encore une fois.
Quant à la raison pour laquelle nous suivions Bromley et Meyer au glacier du Rongbach, continue Siegel, je vais vous révéler ce que je n'ai dit à personne, pas même à nos journaux locaux. Mes 6 amis et moi-même voulions rencontrer George Mallory, le colonel Norton et les autres alpinistes qui, d'après ce que nous avions entendu, tentaient l'ascension de l'Everest ce printemps. Comme nous nous trouvions précédemment en Chine, nous n'étions pas au courant de la mort de Mallory et d'Irvine, et ne savions même pas si l'expédition était arrivée à la montagne. Mais quand les Tibétains nous ont appris que Bromley se dirigeait vers ce qu'ils appellent le Chomolungma, nous nous sommes dit, pourquoi pas? Au lieu de repartir vers le nord, nous avons pris la direction du sud-est.
Nous avons pris la direction du sud-est.
L'accent de Siegel commence à me taper sur les nerfs. Mais quand vous vous êtes aperçu que le camp de base de Norton et Mallory était abandonné, dit le diacre d'un ton poli, quoique insistant, vous avez dû comprendre que l'expédition était déjà repartie. Pourquoi donc avoir continué à monter sur le glacier jusqu'au col nord et encore plus haut?
Parce que nous avons vu 2 silhouettes descendre sur l'arête nord, et il semblait évident qu'elles étaient en difficulté,
réplique Siegel. Vous avez pu voir ça du camp de base à 18 kilomètres de l'Everest? Demande le diacre avec une intonation plus surprise que dubitative.
Nein, nein. Nous étions montés au camp 2 de Mallory après avoir découvert les poneys morts. Pensant que Bromley et ce Meyer dont nous n'avions jamais entendu parler avaient peut-être des problèmes. Nous avions de bonnes jumelles allemandes, des Zeiss, les meilleures du monde.
Le diacre confirme d'un hochement de tête.
Vous avez donc monté vos tentes sur le site de l'ancien camp 3 de Mallory, en bas de la pente de 300 mètres montant vers le col nord. Puis vous avez grimpé sur le col lui-même. Avez-vous utilisé l'échelle de corde laissée par le groupe du colonel Norton pour gravir les 30 derniers mètres verticaux?
Siegel dément d'un geste de la main.
Pas de vieille échelle ni de corde fixe. Nous nous sommes servis de nos piolets et d'autres techniques allemandes pour escalader le mur de glace.
Camille Schiering a raconté avoir vu plusieurs de vos hommes redescendre du col par l'échelle de Sandy à Erwin, dit le diacre.
Qui est-ce Camille Schiering?
Demande Siegel.
Le Sherpa que vous avez rencontré et sur qui vous avez pointé un pistolet au camp 3 ce jour-là.
Celui à qui vous avez raconté la mort de Bromley.
Bruno Siegel hausse les épaules et ricane.
Un Sherpa. Précisément. Les Sherpas mentent tout le temps, comme les Tibétains. Mes amis et moi n'avons pas touché cette échelle de corde. Nous n'en avions pas besoin.
Donc, vous étiez en voyage exploratoire en Chine, mais vous aviez apporté votre équipement d'alpinisme et d'escalade glaciaire avec vous. Dit le diacre, sortant sa pipe et commençant à la remplir. L'immense salle peut difficilement être plus enfumée qu'elle ne l'est déjà.
Il y a des montagnes et des cols en Chine, Herr Deacon.
Le ton de Siegel trahit cette fois plus de mépris que de hargne.
Je ne voulais pas interrompre votre récit, Herr Siegel.
Nouveau haussement d'épaule de l'Allemand.
Le récit, comme vous dites, Herr Deacon, est presque terminé. Mes amis et moi sommes montés au col nord parce que les deux hommes qui descendaient l'arête nord paraissaient avoir besoin d'aide. L'un semblait souffrir de cécité des neiges et l'autre le guidait en le soutenant presque.
Vous avez donc établi un campement sur le col nord? Demande le diacre en inspirant pour allumer sa pipe.
Pas du tout! Se récrie Siegel. Nous n'avions pas de campement sur le col nord.
Camille Schiering a pourtant cru voir au moins deux tentes sur la corniche où Norton et Mallory avaient installé leur camp 4 au col nord. Dit le diacre. Une fois encore, il y a dans sa voix plus de curiosité que de défi. Un homme s'efforçant seulement d'établir les faits pour aider une mère affligée à surmonter la troublante disparition de son fils.
C'étaient les tentes de Bromley, dit Siegel. L'une était déjà déchirée par les vents violents. Ces mêmes vents qui ont contraint Bromley et Meyer à s'écarter de la ligne de crête pendant leur descente, pour se retrouver sur la neige instable de la face juste au-dessous du camp 5. Je leur ai crié en anglais et en allemand de ne pas y aller, que la neige n'était pas stable, mais ils m'ont ignoré.
Le diacre hausse légèrement ses sourcils épais.
Vous étiez suffisamment proche pour leur parler.
J'ai crié.
Dit Siegel du ton qu'on emploierait avec un enfant attardé.
Nous étions encore à 30 mètres ou plus de distance. Puis la neige sur laquelle ils se trouvaient s'est détachée et a dévalé la face en une masse grondante. Ils ont disparu dans l'avalanche et je ne les ai plus entendus.
Vous n'avez pas tenté d'aller voir s'ils n'avaient pas survécu? Il n'y a aucune accusation dans sa voix, mais Bruno Siegel prend la mouche et lui lance un regard noir comme s'il se sentait insulté.
Ce n'était pas possible d'aller sur cette face. Il n'y avait plus de face. L'avalanche avait tout emporté et il était évident que le jeune Bromley et Kurt Meyer étaient morts, ensevelis sous des tonnes de neige à des centaines de mètres plus bas. Hinüber.
Le diacre hoche la tête comme s'il comprenait parfaitement. Je me souviens qu'il avait vu, et tenté d'empêcher Mallory de gravir, la longue pente de neige menant au col nord, un couloir où avaient péri 7 des porteurs de Mallory dans l'avalanche de 1922. Vous avez écrit dans vos comptes rendus aux journaux, et vous venez de le répéter, que le vent sur l'arête menant au camp 6 était si terrible que Lord Percival et Herr Meyer avait dû se retrancher sur les bandes de rochers et les champs de glace de la face nord pour descendre au camp 5, dit le diacre.
Yeah, c'est exact.
Je suppose que vous aussi, Herr Siegel, vous avez dû quitter l'arête et vous réfugier sur la face pendant votre ascension.
Ce qui veut dire que vous les avez vus et avez crié pour vous faire entendre d'eux, alors que vous étiez sur cette face. Ce qui expliquerait l'avalanche qui n'aurait pas pu se produire sur l'arête.
Oui,
conclut Siegel d'une voix sans réplique, comme si l'entretien était terminé. Et pourtant, continue le diacre, joignant le bout de ses longs doigts en pyramide, vous me dites que vous avez réussi à vous faire entendre à une distance de plus de 30 mètres, alors qu'un tel vent hurlait sur l'arête.
Qu'insinuez-vous, Englander ?
Je n'insinue rien. Mais je me souviens que quand j'étais sur cette arête, à cette altitude, en 1922, et que j'ai dû me réfugier sur les rochers de la face nord avec deux autres alpinistes à cause du vent, nous ne nous entendions pas à 5 pas.
Donc vous me traitez de menteur.
La voix de Siegel s'est faite plus rauque, tendue. Il a retiré ses mains de la table et esquisse un geste du bras droit comme s'il tirait quelque chose, un petit pistolet, un couteau, de sa large ceinture. Le diacre repose délicatement sa pipe et met les paumes de ses deux mains écorchées sur la table.
Je ne vous traite pas de menteur. J'essaie de reconstituer les dernières minutes de Bromley et de son partenaire d'escalade autrichien, afin de pouvoir les rapporter à Lady Bromley qui est dévastée par le chagrin, au point de s'imaginer que son fils est encore en vie dans la montagne.
Je suppose qu'après que vous avez quitté l'arête pour continuer à grimper le long de la face, le vent s'est calmé suffisamment pour que vous puissiez crier quelque chose à Bromley à 30 mètres de distance.
Ja, dit Siegel, le visage fermé. C'est précisément ce qui s'est passé.
Que leur avez-vous crié juste avant l'avalanche? Et vous ont-ils répondu? Bromley en particulier, vous a-t-il dit quelque chose? Et lequel des deux semblait atteint de cécité des neiges?
Siegel hésite, comme si la poursuite de cet entretien s'apparenterait trop, pour lui, à une reddition.
Puis il reprend la parole. Son ami aux sourcils bizarres et aux yeux tristes, Herr Hess, semble suivre tous les échanges en anglais, mais qui sait? Peut-être fait-il des efforts pour comprendre quelques mots épars et attend-il impatiemment la traduction de Siegel. Quoi qu'il en soit, il a l'air très intéressé par cet échange. Je suis convaincu, même si je ne saurais dire pourquoi, que l'homme assis à ma droite, le célèbre grimpeur Karl Bachner, saisit les phrases anglaises qui fusent de part et d'autre.
J'ai crié à Bromley, qui paraissait guider un meilleur aveugle, et titubant, « Que faites-vous si haut tous les deux ?» Puis j'ai ajouté, « Avez-vous besoin d'aide ?»
Vous étiez avec vos 6 amis allemands à ce moment-là ? Demande le diacre.
Siegel secoue la tête. « Nein, nein. Mes amis souffraient plus que moi de l'altitude. Certains se reposaient au camp 3, ainsi que l'appelle votre expédition anglaise. Et d'autres s'étaient arrêtés au col nord. J'ai gravi l'arête nord jusqu'au camp 5 et au-delà d'où seul. Comme je l'ai expliqué dans différents journaux et magazines, j'étais seul quand j'ai rencontré Bromley et son partenaire d'escalade. Vous avez sûrement lu mes déclarations avant de venir ici.
Bien sûr. Le diacre rallume sa pipe. Siegel soupire, manifestement agacé de la lenteur de son interlocuteur anglais.
Si vous me permettez de poser la question, quelle était votre destination, Herr Siegel?
Où comptiez-vous aller avec ces chevaux mongols, ces mulets et cet équipement?
J'espérais rencontrer George Mallory et le colonel Norton, et peut-être reconnaître le mont Everest à une certaine distance, Herr Deacon, comme je vous l'ai expliqué précédemment.
Et pour le gravir, peut-être? Demande le diacre.
Le gravir,
répète Bruno Siegel avant de lâcher un éclat de rire rauque.
Mes amis et moi ne disposions que d'un équipement d'escalade rudimentaire, très insuffisant pour attaquer une montagne pareille. Par ailleurs, la mousson était attendue depuis déjà quelques semaines et pouvait s'abattre à n'importe quel moment. C'est votre Bromley qui était assez fou pour penser pouvoir escalader l'Everest, en utilisant les quelques conserves de nourriture, les échelles de cordes usées, les cordes fixes couvertes de neige que l'expédition de Mallory avait laissées sur place. Bromley était un idiot. Jusqu'à ses derniers pas sur la neige instable, c'était un idiot. Il ne s'est pas seulement tué lui-même,
Il a tué son compagnon d'escalade.
Plusieurs alpinistes allemands assis à ma droite hochent la tête, comme le fait le dénommé Rudolf Hess.
L'homme imposant au crâne rasé à côté de Siegel, qui nous a été présenté comme le garde du corps de quelqu'un, garde les yeux braqués droit devant lui dans tout ce brouhaha, comme s'il était drogué, ou comme si la discussion ne l'intéressait absolument pas.
« Mon cher Herr Dicken, » poursuit Siegel, « l'Everest n'est absolument pas fait pour une ascension en solitaire. »
Il me jette un regard dur.
Et même à deux ou trois grimpeurs ambitieux venus de différents pays et formés à la méthode alpine. L'Everest ne sera pas conquis en style alpin, ni en solo. Non, je voulais seulement voir la montagne de loin. De plus, c'est une montagne britannique, n'est-ce pas ?
Pas du tout, répond le diacre. Elle appartient à celui qui la vaincra le premier, quoi qu'en pense l'Alpine Club de la Royal Geographical Society.
Siegel grommelle.
Quand vous avez parlé à Bromley et Meyer sur cette face, le dernier jour, poursuit le diacre, pourriez-vous me répéter ce que vous leur avez dit ?
Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça a été très bref.
Siegel semble à bout de patience. Le diacre attend.
Je leur ai crié « Que faites-vous si haut ?» Puis je leur ai demandé s'ils avaient besoin d'aide, ce qui était manifestement le cas. Mais hier, semble-t-il, ne voyait plus rien et paraissait si fatigué qu'il ne tenait plus debout sans l'aide de Bromley. Le lord anglais lui-même avait l'air désorienté, perdu, hébété.
Siegel s'interrompt le temps de boire une gorgée de bière.
Je leur ai conseillé de ne pas s'engager sur la pente de neige, mais ils l'ont fait quand même. L'avalanche s'est déclenchée, ce qui a mis fin à toute conversation avec eux, pour toujours,
conclut-il. Il semble évident qu'il ne répétera pas l'histoire une fois de plus.
Vous leur avez parlé en anglais et en allemand, disiez-vous.
Meyer vous a-t-il répondu en allemand ?
Demande le diacre.
Nein ! L'homme que les Tibétains à Tingri ont appelé Kurt Meyer semblait trop épuisé et souffrant pour parler. Il n'a pas prononcé un mot. Pas un mot jusqu'à ce que l'avalanche l'emporte.
Leur avez-vous dit, crié, autre chose ?
Siegel secoue la tête.
La neige a glissé sous leurs pieds et l'avalanche les a balayés. Par sécurité, je suis retourné sur l'arête, en rampant presque à cause du vent. Puis je suis redescendu au camp 4, au col nord, et nous avons quitté la montagne.
Vous n'avez vu aucune trace de leur corps plus bas ? Demande le diacre.
Cette fois, Siegel ne cache plus sa colère. Il pince les lèvres et sa voix résonne comme un aboiement.
Il y a plus de 5 de vos verdammes de miles anglais de dénivelé entre ce point sur la face nord et le glacier du Rongbach. Et je ne cherchais pas leur cadavre, Herr Dicken. J'utilisais mon piolet pour m'éloigner de cette plaque de neige instable qui risquait à tout instant de glisser en avalanche et retourner vers les dalles de l'arête afin de redescendre au col nord le plus vite possible.
Le diacre fait signe qu'il comprend.
Alors, que croyez-vous qu'ils faisaient tous les deux ?
Il paraît sincèrement curieux. Bruno Siegel regarde Bachner et les autres alpinistes attablés avec nous, et je me demande une fois encore combien d'entre eux suivent cette conversation en anglais.
« Ça me paraît évident !»
répond Siegel d'un ton de nouveau dédaigneux.
« Je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Vous n'écoutiez pas, Herr Dicken ? » ?»«
Redites-le-moi, s'il vous plaît. »
« Votre Bromley, fort de quelques escalades guidées dans les Alpes, s'est persuadé qu'il pouvait utiliser les cordes et les camps laissés par le groupe de Mallory et Norton pour tenter l'ascension de l'Everest, avec pour tout partenaire et porteur cet idiot de Kurt Meyer. C'était pure arrogance, stoïts, quel est le mot grec ? Hubris, pure hubris. »
Le diacre hoche lentement la tête et tapote sa lèvre inférieure avec la tige de sa pipe, comme si un grand mystère venait d'être résolu.
À votre avis, ils sont montés à quelle altitude avant de devoir faire demi-tour ?
Siegel lâche un rire.
Qui donc s'en soucie ?
Le diacre attend patiemment. Bruno Siegel finit par répondre.
Si vous pensez que ces deux imbéciles ont pu atteindre le sommet, oubliez ça tout de suite.
Ils ont disparu de notre vue trop peu de temps pour avoir pu aller beaucoup plus loin que le camp 5. Ou le camp 6, peut-être, s'ils ont trouvé des appareils à oxygène au camp 5. Ce dont je doute. Elles n'ont pas dépassé le camp 6. De cela, je suis certain.
Pourquoi en êtes-vous certain?
Demande le diacre d'une voix raisonnable, curieuse. Il tapote toujours sa lèvre avec sa pipe.
Le vent,
répond Siegel catégorique.
Le froid et le vent.
C'était déjà insoutenable sur l'arête où je les ai rencontrés, juste au-dessus du camp 5. Plus haut, vers le camp 6, au-dessus des 8000 mètres, et ensuite sur l'arête nord-est complètement exposée.
C'était la mort assurée.
Il n'y a aucune chance qu'ils soient arrivés jusque-là, Herr Deacon. Absolument aucune.
Vous avez répondu à mes questions avec beaucoup de patience, Herr Siegel, dit le diacre. Je vous remercie très sincèrement.
Ces informations aideront peut-être Lady Bromley à trouver la paix.
Siegel n'émet qu'un grognement en réponse. Puis il reporte son attention sur moi.
Qu'est-ce que vous observez comme ça, jeune homme?
Les drapeaux rouges sur le mur dans le coin là-bas, dis-je, pointant le doigt derrière Siegel.
Et le symbole dans le cercle blanc sur les drapeaux rouges?
Siegel me dévisage. Ses yeux bleus sont aussi froids que la glace.
Vous connaissez ce symbole, Herr Jacob Perry d'Amérique?
Oui. J'ai beaucoup étudié le sanskrit et les civilisations de la vallée de l'Indus quand j'étais à Harvard. En Inde et au Tibet, et dans d'autres cultures hindoues, bouddhistes et jaïnes, ce symbole signifie bonne chance ou parfois harmonie. Le mot sanskrit qui le désigne est, je crois, svastika. J'ai cru comprendre qu'on le retrouvait partout sur les vieux temples en Inde.
Siegel me fusille du regard comme si je me moquais de lui ou d'une chose sacrée à ses yeux.
Le diacre allume sa pipe et me regarde, mais n'intervient pas.
Dans l'Allemagne d'aujourd'hui,
finit par dire Siegel en remuant à peine les lèvres.
C'est le svastika.
Il épelle le mot à mon intention.
C'est le glorieux symbole du NSDAP, le National-Socialistische Deutsche Arbeitspartei, le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands. De ce parti et de l'homme que vous voyez sur ces photos viendra le salut de l'Allemagne.
Même si j'ai une bonne vue, je ne parviens pas à distinguer l'homme sur les photos. Dans un coin de la salle fermée par un cordon, il y a deux clichés encadrés, sous les drapeaux rouges accrochés au mur. Un autre drapeau rouge est enroulé sur une hampe se dressant à au moins 2 mètres dans l'angle.
« Venez !»
ordonne Bruno Siegel. Tout le monde se lève. Hess et le chauve assis à côté de Siegel de l'autre côté de la table, Bachner et tous les alpinistes de notre côté, ainsi que le diacre tirant toujours sur sa pipe. Je suis Siegel à travers la salle. Le cordon qui protège ce petit coin mémoriel, on dirait un hôtel, est une simple corde d'alpiniste de 6 mm de diamètre, peinte en doré et accrochée à 2 petits piquets comme ceux auxquels les maîtres d'hôtel fixent leur embrasse de velours à l'entrée des grands restaurants. Un même homme apparaît sur les 2 photos. Je dois donc supposer que c'est lui, le salut de l'Allemagne, avec son parti socialiste au drapeau orné du svastika. Sur l'une, il est seul. De loin, on dirait un portrait de Charlie Chaplin en raison de la petite moustache ridicule sous son nez, mais non. L'individu a des cheveux bruns séparés par une sévère raie au milieu, des yeux noirs, et il fixe l'objectif d'un regard intense. Certains le qualifieraient de furieux. L'autre photo le montre en compagnie de 2 hommes en uniforme militaire dans l'embrasure d'une porte. Je reconnais celle de cette brasserie. Le type à la moustache de Charlot porte des vêtements civils informes. C'est le plus petit et certainement le moins imposant des 3 hommes.
Adolf Hitler,
annonce Bruno Siegel, et il surveille de près ma réaction. Je n'en ai aucune. Je crois avoir déjà entendu ce nom en rapport avec les troubles qui secouent en permanence l'Allemagne en ce moment, mais il ne m'a pas laissé d'impression particulière. Sûrement un leader communiste, avec son parti national-socialiste de travailleurs. Derrière moi, le grand alpiniste Karl Bachner dit
« Der Mann, den wir nicht antasten lassen ».
Je me tourne vers Siegel en quête d'une traduction, mais il ne dit rien. L'homme auquel nous ne laisserons personne porter atteinte, m'explique le diacre, la pipe à la main. Je m'aperçois alors que le drapeau rouge avec le cercle blanc et le svastika sur sa hampe est déchiré, comme traversé par des balles, et ensanglanté, si les taches brunes sont bien du sang séché. Je tends la main vers lui, m'apprêtant à poser une question. Le gros bras à la tête ronde et chauve, resté assis en silence à côté de Siegel pendant toute la discussion, réagit aussitôt et écarte brutalement ma main pour m'empêcher de toucher le tissu déchiré. Choqué, je laisse retomber ma main et observe le costaud furieux.
C'est la Blutfahne, le drapeau de sang, un objet sacré pour les partisans d'Adolf Hitler et du National-Socialismus,
dit Bruno Siegel.
Il ne doit pas être touché par les non-ariens. « Jamais par un Ausländer !»
Le diacre n'a pas besoin de me traduire les mots dont je devine la signification dans le contexte. « C'est du sang ?» demandai-je bêtement. « Tout ce que j'ai fait, dit ou senti ce soir me paraît stupide. En plus, je suis affamé. » Siegel hoche la tête.
« Du massacre du 9 novembre de l'année dernière, quand la police de Munich a ouvert le feu sur nous. » Le drapeau appartenait au 5e SA-Sturm, et le sang est celui de notre camarade martyr Andreas Bauriedel, qui est tombé sous les balles des policiers.
Le putsch de la brasserie qui a échoué, m'explique le diacre. Il a commencé ici même, si je me souviens bien. Siegel lui jette un regard noir à travers la fumée de la pipe de mon ami.
« Nous préférons l'appeler Hitler Putsch ou Hitler Ludendorff Putsch, »
réplique l'alpiniste allemand.
Et contrairement à ce que vous dites, il n'a pas échoué.
Vraiment, s'étonne le diacre. La police a écrasé le soulèvement, dispersé les manifestants nazis et arrêté les leaders dans votre Herr Hitler. Il me semble qu'il purge actuellement une peine d'emprisonnement de 5 ans pour trahison dans la vieille forteresse de Landsberg sur la Lech. Siegel esquisse un étrange sourire.
Adolf Hitler est devenu un héros du peuple allemand. Il sera libéré de prison avant la fin de l'année. Et même là-bas, il est traité comme un roi par ses pseudo-gardiens. Ils savent qu'un jour, il dirigera la nation.
Le diacre vide sa pipe et la range dans la poche de sa veste.
Merci, Herr Siegel, pour les renseignements que vous m'avez fournis ce soir,
déclare-t-il. Et pour avoir rectifié mes impressions fausses et mes erreurs à propos du Hitler Putsch et de la situation actuelle de Herr Hitler.
Je vous raccompagne à la porte du Bürgerbraukeller, dit Siegel.
Notre train quitte la gare à 22 heures précises. La ponctualité, je suis en train de l'apprendre, est une spécialité allemande. Je me réjouis que nous disposions d'un compartiment privé. Si nous le souhaitons, nous pourrons nous étendre sur les banquettes rembourrées et somnoler avant l'arrêt à la frontière suisse, plus tard dans la nuit, pour changer de train et de rail. Dans le taxi qui nous a conduit de la Bürgerbraukeller à la gare de Munich, je me suis aperçu que j'étais en sueur. La transpiration avait traversé mon maillot de corps, ma chemise à midonnée et jusqu'à mon épaisse veste de laine. Mes mains tremblent alors que je regarde les lumières de Munich se fondre dans l'obscurité relative de la campagne. Jamais je n'ai été aussi content de m'éloigner d'une ville. Enfin, quand je me sens capable de parler sans qu'un tremblement dans ma voix fasse écho à celui qui agitait mes mains un instant plus tôt, je demande « C'est Adolf Hitler, j'avais déjà vu ce nom, mais je ne me souvenais de rien le concernant. C'est le dirigeant communiste local appelant au renversement de la République de la Weimar ?»
« Plutôt l'inverse, mon vieux, » me répond le diacre couché sur sa banquette.
Hitler est connu et adulé par certains pour ses positions d'extrême droite, son antisémitisme virulent et tout ce qui va avec. Et son procès a offert une publicité nationale à ses diatribes. Mais il est en prison pour 5 ans après sa tentative de coup d'État de l'année dernière, Le diacre s'assoit pour rallumer sa pipe et entr'ouvre la fenêtre du compartiment afin que la fumée puisse s'échapper, même si elle ne me dérange pas.
Je crois que Herr Siegel avait raison sur ces deux points. Hitler sera sûrement libéré avant la fin de l'année, après seulement un an d'incarcération, et les autorités le traitent comme un hôte de marque dans cette prison.
Pourquoi ?
Mon compagnon hausse légèrement les épaules. La vie politique allemande actuelle dépasse largement mes pauvres facultés de compréhension. Mais il semble que l'extrême droite, les nazis pour être précis, attire beaucoup de ces gens mécontents frappés de plein fouet par l'hyperinflation. Je me rends compte que je ne suis pas très intéressé par ce petit homme à la moustache de Charlot. Vous vous rappelez ce type chauve à l'air renfrogné, assis en face de vous à table, qui vous a frappé la main quand vous avez voulu toucher leur drapeau sacré?
Oui.
Ulrich Graf était le garde du corps personnel de Hitler, ce qui explique peut-être pourquoi il a reçu plusieurs balles destinées à ce dernier pendant la tentative de putsch de novembre dernier. Mais Graf est robuste, comme vous avez pu vous en apercevoir ce soir. Et il aura sûrement l'occasion de sauver encore une fois le héros national-socialiste de l'Allemagne. Avant, c'était un boucher et un lutteur semi-professionnel qui ne rechignait pas à louer ses services de gros bras. Il lui est arrivé de tabasser, voire de tuer gratuitement des juifs et des communistes. Je réfléchis pendant un long moment à ce qu'il vient de me raconter. Quand je reprends la parole, c'est dans un murmure malgré les cloisons du compartiment tout autour.
Croyez-vous au récit de Siegel concernant la mort de Lord Percival et de l'Autrichien?
Personnellement, malgré une forte antipathie pour Siegel et ses comparses, je ne vois pas comment ne pas le croire.
Pas un mot, répond le diacre.
Ce qui me fait me redresser aussitôt sur la banquette où j'étais à moitié étendu.
Non?
Non.
Mais alors, que croyez-vous qu'il soit arrivé à Bromley et Meyer? Et pourquoi Siegel mentirait-il?
Une fois encore, le diacre hausse les épaules. Il est possible que Siegel et ses amis aient voulu tenter l'ascension du sommet, après avoir entendu dire à Tingri que le reste de l'équipe de Mallory était reparti. Je doute qu'ils aient eu une autorisation officielle des autorités tibétaines d'escalader ou de voyager. Les Allemands ont peut-être rattrapé Bromley quelque part en dessous du col Nord et insisté pour que Meyer et lui grimpent avec eux, malgré cette terrible météo d'avant la mousson. Puis après la chute mortelle de Bromley et de Meyer, ou quelle que soit la cause de leur mort, Siegel a peut-être fait demi-tour et inventé cette fable selon laquelle les deux hommes avaient été emportés par une avalanche dans leur tentative d'ascension en solitaire.
Vous ne croyez pas à cette histoire d'avalanche?
Je suis allé sur cette arête et sur cette face, Jake. À cet endroit, il est rare qu'il y ait assez de neige accumulée pour provoquer le genre de glissement massif décrit par Siegel. Et quand bien même, j'ai le sentiment que Bromley avait suffisamment d'expérience de la montagne pour éviter de s'aventurer sur ce genre de pente.
Dans ce cas, vous croyez qu'ils ont fait une chute en escaladant au-dessus du camp 6 avec Siegel?
Il y a d'autres possibilités. D'autant que d'après mes maigres souvenirs de Percy Bromley, je ne le vois pas se laisser imposer une tentative d'ascension de l'Everest par un extrémiste allemand désireux de vaincre le sommet pour Das Vaterland. Le diacre examine sa pipe.
Je regrette de ne pas avoir mieux connu Percival Bromley. Comme je vous l'ai dit à Jean-Claude et vous, quand j'avais 9 ou 10 ans, on me déposait parfois au domaine, comme on aurait livré n'importe quelle autre marchandise commandée par les châtelains, pour que je serve de camarade de jeu à Charles, le frère aîné de Percy. Le jeune Percival voulait toujours nous suivre. C'était, comment dites-vous, Jake, en anglais d'Amérique, un vrai casse-couille.
Vous n'avez jamais revu Percival après ça?
Oh, il m'est arrivé de le croiser à des garden parties en Angleterre ou sur le continent, répond le diacre d'un ton vague.
Percival était-il vraiment un... inverti?
J'ai du mal à prononcer le mot tout haut.
Est-ce qu'il fréquentait vraiment ces bordels européens où les prostituées sont des jeunes hommes?
si l'on en croit la rumeur, répond le diacre. Cela a-t-il une quelconque importance pour vous, Jake?
Je me pose la question et ne sais pas y répondre.
J'ai vécu une vie très protégée, je m'en rends compte. Je n'ai jamais eu d'amis pédérastes, en tout cas pas à ma connaissance. Gêné, je m'empresse de changer de sujet. Comment Bromley et Kurt Meyer auraient-ils pu mourir sinon?
Bruno Siegel les a peut-être tués tous les deux, dit le diacre.
Un nuage de fumée bleue flotte entre nous, puis se dirige vers la fenêtre ouverte. On entend le fracas des roues d'acier sur les rails. Je suis profondément ébranlé par ce qu'il vient de dire. L'a-t-il fait exprès pour me choquer? Auquel cas, il a réussi son coup. Ma mère est catholique, née O'Reilly, une autre tache sur le blason de la vieille lignée des Perry de Boston. Et j'ai appris très jeune la différence entre les péchés véniels et mortels. Pour moi, tuer un autre alpiniste sur une montagne telle que l'Everest serait encore pire qu'un péché mortel. Cela ajouterait comme une dimension blasphématoire.
Tuer un autre alpiniste?
Pourquoi? Réussis-je enfin à demander. Le diacre vide sa pipe dans un cendrier logé au bout de la coudoire.
Je suppose qu'il nous faudra gravir l'Everest et faire ce pour quoi on nous a embauchés, c'est-à-dire trouver la dépouille de Lord Percival Bromley pour le découvrir.
Mon ami baisse son chapeau de tweed sur ses yeux et s'endort aussitôt. Pendant un long moment, je reste assis là, dans le compartiment du train brinque-ballant, à essayer de comprendre des choses qui dépassent l'entendement. Enfin, je ferme la fenêtre. L'air dehors se refroidit.